Nous poursuivons nos lectures dans l'Évangile selon Luc et nous lisons au chapitre 15, les versets 11 à 32. C'est l'histoire du père et du fils perdu et qui est retrouvé. On appelle ça aussi le fils prodigue. Jésus dit : un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père : Père, donne-moi la part de notre fortune qui doit me revenir. Alors le père partagea ses biens entre ses deux fils. Peu de jours après, le plus jeune fils vendit sa part de la propriété et partit avec son argent pour un pays éloigné. Là, il vécut dans le désordre et gaspilla ainsi tout ce qu'il possédait. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à manquer même du nécessaire. Il se mit donc au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les cochons. Il aurait bien voulu se nourrir des fruits du caroubier que mangeaient les cochons, mais personne ne lui en donnait. Alors il se mit à réfléchir sur sa situation et se dit : tous les employés de mon père ont du pain en abondance, tandis que moi ici, je meurs de faim. Je veux repartir chez mon père et je lui dirai : Père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne suis plus digne que tu m'appelles ton fils. Traite-moi donc comme l'un de tes employés. Et il repartit chez son père. Tandis qu'il était encore assez loin de la maison, son père le vit et il fut bouleversé. Il courut à sa rencontre, le serra contre lui et l'embrassa longuement. Le fils lui dit alors : Père, j'ai péché contre Dieu et contre toi, je ne suis plus digne que tu m'appelles ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs : Vite, apportez le plus bel habit et mettez-le-lui. Passez-lui une bague au doigt et des chaussures aux pieds. Amenez le veau bien gras et tuez-le. Nous allons faire un festin et nous réjouir, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et je l'ai retrouvé. Et ils commencèrent à faire la fête. Pendant ce temps, le fils aîné de cet homme était au champ. À son retour, quand il approcha de la maison, il entendit un bruit de musique et de danse. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Le serviteur lui répondit : ton frère est revenu. Ton père a fait tuer le veau bien gras parce qu'il a retrouvé son fils en bonne santé. Le fils aîné se mit alors en colère et refusait d'entrer dans la maison. Son père sortit pour le supplier d'entrer. Mais le fils répondit à son père : écoute, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais désobéi à l'un de tes ordres, et pourtant tu ne m'as jamais donné même un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà revient, lui qui a dépensé entièrement ta fortune avec des prostituées, pour lui alors tu fais tuer le veau bien gras. Le père lui dit : mon enfant, toi, tu es toujours avec moi, et tout ce que je possède est à toi. Nous devions faire une fête et nous réjouir, car ton frère que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et le voilà retrouvé. C'est peut-être une des histoires les plus célèbres de toute la Bible. Pas que du Nouveau Testament, c'est au moins aussi célèbre que la scène d'Adam et Ève dans le jardin, etc., etc. Il y a quelques histoires comme ça, le bon samaritain aussi, qui reviennent facilement à la mémoire, tellement on les a lues et relues, tellement on nous en a dit aussi beaucoup de choses. Certaines sont restées dans notre mémoire, d'autres non. Une des histoires les plus célèbres de Jésus, celle du fils prodigue. On a retenu ce titre classique, on aurait plus de mal à définir ce qu'est la prodigalité. Il vaut mieux dire qu'il a été perdu puis retrouvé, parce que c'est une séquence que nous trouvons toujours dans notre propre vie, quelque chose ou quelqu'un qui se perd, ou une partie de nous qui se perd et qui revient à la surface, que nous rattrapons comme ça de justesse et que nous serrons très fort comme ce père accueille son fils. C'est un récit qui nous touche tous parce que nous pouvons le lire à n'importe quel âge. C'est bon pour les plus jeunes d'entre nous, c'est vrai aussi pour ceux qui entrent et sortent dans une église depuis très 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 longtemps. Il y a toujours quelque chose à retrouver dans cette histoire et qui se trouve chez nous. Ceux qui ont l'habitude, les vieux routiers, trouvent un écho à leur expérience de vie. Ça résonne chez beaucoup d'entre nous. Les plus jeunes peuvent y reconnaître aussi leurs propres sentiments, leurs propres questions, le désir de liberté, peut-être la peur de décevoir aussi, parfois, l'espérance d'être aimé, accueilli, malgré nos erreurs. Partout dans cette histoire, une fois qu'elle est relue, résonnent ces questions si simples. Si je ne me sens plus tout à fait chez moi, ou si je m'ennuie, ou si je me sens prêt à partir, est-ce que je peux partir? Et puis aussi, si je déçois, si j'échoue, si je trébuche, si je ne sais plus, si je suis parti loin, est-ce que je peux revenir? Et c'est pour répondre à ces questions si simples que Jésus raconte cette histoire. Un homme a deux fils. Nous sommes évidemment invités non pas à incarner l'un qui nous plairait davantage que l'autre, que ce soit l'un ou l'autre d'ailleurs, mais peut-être prendre le costume, comme dans une pièce de théâtre, et de l'un et de l'autre. Peut-être que certains parmi nous se sentent proches du plus jeune, celui qui veut tout, tout de suite, et qui demande à son père, écoute, donne-moi ma part, donne-moi ce qui me revient, je sais quoi en faire, je me sens prêt, je veux partir. C'est pas un simple caprice de sa part, c'est plus fort que ça, la rupture avec le père. Dans la culture de l'époque, ça revient presque à dire, papa, je n'ai plus besoin de toi. Ça ne passe pas très bien. Ça ne passe pas très bien, pourtant, ou ça devrait ne pas se passer bien, pourtant le père l'accepte sans discuter. Il fait le partage des biens, ta part, débrouillez-vous. Je vous fais assez confiance pour vous la donner. C'est ça que veut dire ce partage aussi. Il partage ses biens, laisse partir celui des deux qui veut partir. Ce jeune homme prend alors le chemin de l'aventure. Il part vraiment très loin dans ce qu'il fait, dans ses excès. Il dépense tout ce qu'il a, vit n'importe comment, jusqu'à ce que l'argent disparaisse et que la famine arrive. Et il se retrouve à garder les cochons. Ce n'est pas pour rien qu'on nous parle de cochons dans la culture où a été produit ce texte. Garder des cochons, c'est vraiment un travail impur et humiliant. C'est ce qui peut vous arriver de pire. Et au milieu de ce pire, tout en bas, il rêve de manger ce que mangent ces animaux. C'est dire à quel point il a dégringolé. Il est au plus bas. Et c'est à ce moment-là, au plus bas de sa vie, qu'il revient à lui-même. Il faut bien faire demi-tour à un moment donné. Le premier demi-tour a lieu dedans, avant que physiquement il se dise « bon, je vais rentrer chez moi ». Il y a un demi-tour qui se fait chez lui. Il ouvre les yeux enfin, il se dit « chez mon père, au moins, les ouvriers ont du pain en abondance, une nourriture de luxe pour moi maintenant. Moi, je crève de faim. » Alors il se lève, décide de retourner chez son père et prépare son discours. On peut imaginer, en le voyant marcher sur la route, je vais lui dire ça comme ça, préparer les formules. Non, ça va être niais, ou il va mal le prendre. Recommencer un petit peu comme quand on chiffonne le 14e brouillon, vous savez, qu'on le jette à la poubelle et qu'on se remet à écrire. On l'imagine passer toute une bonne partie du chemin de retour à essayer de savoir ce qu'il va dire à ce père. Et puis il trouve finalement, bon, je suis à peu près content de ma version, je vais lui sortir celle-là. Père, j'ai péché contre toi, contre le ciel, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Pour quelqu'un qui est tout à fait en bas, c'est un relèvement timide. Il lui faudra du temps pour se remettre debout. Là, il est, disons, plus à plat ventre, face contre terre. Il commence à relever la tête, c'est déjà ça. Et puis, à force de marcher, il rentre chez lui. C'est le moment clé de la parabole. Qu'est-ce que fait le père ? Jésus nous dit que, alors que le fils est encore très loin, le père l'aperçoit. Il devait l'attendre depuis un moment. Ça veut dire que ce père devait souvent regarder la route, espérer le retour de ce fils. 500 fois, il est allé à la boîte aux lettres, relever le courrier, rester un quart d'heure, 20 minutes, rien, toujours rien, pas aujourd'hui encore. Et puis rentrer chez lui, refaire ça le lendemain, 7 jours sur 7. Et qu'est-ce qui se passe au moment du retour du Père? Ça, c'est très frappant. Le Père ne laisse même pas au Fils le temps de dérouler cette chose qui lui a pris tant de temps. Je vais lui dire ça comme ça, la formule est mieux, je vais dire ben, j'ai péché contre toi, je vais y aller doucement, je vais être repentant et normalement ça doit passer. Il commence à dérouler son discours. Mon fils que voilà était mort, il est revenu à la vie. Vite, allez chercher, rentre. Il n'a pas le temps d'aller au bout de sa contrition et de ses excuses, comme si le Père s'en fichait. Le Père court, ne garde pas rancune, ne fait pas payer les fautes, ne demande pas des comptes. Qu'as-tu fait de ton argent? J'ai eu des échos de ce que tu as fait là-bas, etc. Rien de tout ça, rien du tout. Il n'en sera jamais question. Une fois que le portail est refermé, c'est la fête et les préparatifs qui commencent. Est-ce qu'une église ne devrait pas s'efforcer de faire la même chose? De ne pas tenir compte des aventures de chacun, où nous avons sans doute fait des erreurs, mais où nous avons aussi tous, peut-être, souffert de beaucoup de choses? Est-ce qu'elle ne devrait pas être uniquement cette porte ouverte où, quand on arrive avec son repentir, on nous dit « Ok, c'est bon, on sait, c'est pareil pour nous. Entre. » Il y a un repas de luxe qui t'attend. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Il y a un troisième personnage. Il y a le deuxième fils. Comme on n'aime pas trop se projeter dans le coléreux, hein, ou le colérique, on se dit que la parabole aurait pu s'arrêter là. On peut même prendre la liberté de ne pas lire les derniers versets, mais c'est un peu malhonnête comme procédé. Il y a quand même le deuxième fils. Il est resté à la maison, obéissant, fidèle, il a toujours fait les choses bien. Il est recta, carré, tout droit. Il fait les choses bien, il n'a rien à se reprocher. Pas de repentir, donc, de sa part. Il n'en a pas besoin. J'ai fait tout ce qu'il y avait à faire toutes ces années, jamais désobéi. Tu ne m'as même pas donné un petit chevreau, pas un veau gras, hein, un tout petit machin comme ça. Un petit animal à immoler, à partager avec mes amis. Même ça, je n'y ai pas eu droit. Comme s'il n'avait pas eu droit au reste, à tout le reste, ce que son père lui rappelle. Je t'ai servi toutes ces années, et pour celui-là là, qui a gaspillé son argent, et on sait comment, hein, toi, tu tues le veau gras. Il y a quelque chose qu'on oublie souvent, c'est que le Père, la tonalité qu'on peut prêter à la réponse du Père, il sort pour le supplier, pour lui dire « Écoute, va faire ta colère un peu plus loin, va dans ta chambre, tu réfléchis à ce que tu as fait et puis tu reviens quand tu es calmé. » Pas du tout. Il va le chercher aussi, celui-là. Il veut les deux avec lui. Celui qui est parti loin, qui a tout claqué, qui a fait n'importe quoi et qui a osé revenir. Et puis celui qui bougonne là dans son coin et qui a oublié la place privilégiée qui est déjà la sienne et tout le bénéfice qu'il en tire déjà. Deux formes d'ingratitude différentes et qui sont accueillies par des bras qui vous serrent fort pour le premier et une supplication pour le second. Allez, quoi, viens. Nous voyons le cœur du Père ici, ce que devrait être le cœur d'une église qui est environnée, traversée, peuplée, habitée, régulièrement ou irrégulièrement par nous tous, d'une manière ou d'une autre. Nous tous sommes appelés à goûter à la joie du pardon, à abandonner nos petites passions tristes parce que nous oublions que nous avons déjà tout ici. Toi, tu es toujours avec moi. Tout ce qui est à moi est à toi. Mais il fallait bien se réjouir puisque celui-là est parti et il a failli se perdre, ne jamais revenir. Il est revenu à la vie. Cette parabole est riche, on pourrait en parler des heures, ce que je ne vais pas faire. Il y a des choses essentielles qui nous sont dites là-dedans. Notre liberté à tous devant Dieu est primordiale. C'est la chose qu'il faut mettre d'abord. Parce que c'est ça qui apparaît dans cette histoire. Comme le père de cette histoire, Dieu ne force pas à rester près de lui. Les portes d'une église s'ouvrent dans les deux sens. Il nous a créés libres d'aimer ou de quitter. libre de faire de bons choix ou de nous tromper aussi, de faire demi-tour aussi. Une liberté précieuse, mais qui peut nous mener parfois bien loin de ceux que nous aimons, bien loin de nous-mêmes aussi. Beaucoup d'entre nous connaissent cette expérience. Nous avons cru qu'en vivant comme nous le souhaitions, nous serions plus heureux, jusqu'à ce que nous nous apercevions que quelque chose d'essentiel nous manque, parce que c'est quelqu'un d'autre qui pouvait nous le donner, et nous lui avons tourné le dos. Mais le retour est possible, il suffit de faire demi-tour. Le premier appel de cette parabole est donc « Reconnais quand tu es parti au loin ». Et comme ce fils-là, n'aie surtout pas peur de revenir. L'Église est un lieu ouvert et patient. Nous essayons en tout cas de travailler à ce qu'elle le soit. Et il y a forcément quelqu'un qui nous attend et quelqu'un qui nous relève. Et quand nous le faisons pour quelqu'un d'autre, c'est parce que, à un autre moment, quelqu'un l'a fait aussi pour nous. Le cœur de cette histoire, c'est le tempérament de ce père, son caractère. Avant même que son fils n'arrive, il court. Ce geste est vraiment incroyable. La culpabilité remâchée pendant des kilomètres du premier aurait pu correspondre au froncement de sourcils, ou un minimum, quand même. J'en ai appris à ton sujet. Même pas ça. Ce père se moque de ses reproches. Son seul désir est de retrouver vivant en un morceau, en bon état, ce fils qui avait besoin de revenir. Nos églises sont le lieu où on fait un pas comme ça, un pas de cette nature-là vers lui. Chacun prend sa place, chacun trouve sa dignité de fils, de fille, aimé, attendu, et trouve sa vocation ici même. Et puis il y a le message du fils aîné, j'ai choisi de ne pas l'escamoter, allons-y. Il nous ressemble souvent. Et nous nous mettons en défaut même quand nous faisons quelque chose de droit, de recta et de juste. Parce que nous nous en contentons et ça nous donne une sorte de piédestal. Une église ne peut pas ressembler à ça. Nous préférerions que Dieu soit juste, mais d'une justice, un peu répressive. Parce que quand il faut. Et puis un petit coup de trick n'a jamais tué personne. Il y a là-dedans non pas quelque chose qui est une faiblesse dans le fait de serrer un fils qui a tout claqué ou de supplier un fils qui est en colère et qu'on pourrait envoyer bougonner dans son coin. Ce n'est pas de la faiblesse, il faut beaucoup de force pour renouer ce qui a été interrompu, coupé ou abîmé. C'est pas une affaire de faible, ça. Il faut prendre sur soi. Là, on entre dans le dur. Alors qu'envoyer bouler quelqu'un en lui reprochant ses histoires, on vide son sac, c'est facile et ça ne coûte rien. Sommes-nous parfois comme le fils cadet en train de gaspiller ce que nous avons reçu? Certainement. Sommes-nous comme l'aîné enfermé parfois dans de l'amertume ou dans la rigueur des choses et que nous attendons des autres et qui ne vient pas et que nous finissons par le leur reprocher? Certainement aussi. Il faut faire ce pas de retour, comme ce fils qui revient. C'est coûteux. Les échecs coûtent. Et on ne peut pas récupérer tout ce qu'on a perdu en plus. Il y a la crainte du jugement, le sentiment de gâchis. Ce n'est pas grave. Si en église tu as compris ce qu'est la bonne nouvelle, fais demi-tour et reviens. Quelqu'un t'attend. Se relever 100 fois après être tombé 100 fois, etc., etc. C'est peut-être ça la définition de la grâce. Elle n'est pas en nombre limité. Être chrétien, peut-être aujourd'hui, c'est devenir un peu comme le père de cette parabole. Accueillir, pardonner, redonner confiance à ceux qui se sentent perdus. Cette parabole, vous l'avez remarqué, ne se termine pas vraiment. Nous allons jusqu'au dernier verset. On peut même avoir la tentation de la couper en deux ou en trois et de prendre la partie qui nous arrange. Mais surtout, si on la prend intégralement, on voit qu'elle n'est pas terminée, cette histoire. Jésus ne nous dit pas si le fils aîné a fini par rentrer dans la maison pour partager la fête avec son frère et avec tous ceux qui étaient là. La réconciliation a-t-elle eu lieu? Pas sûr, peut-être. La fin est ouverte, comme si nous devions écrire la suite nous-mêmes, comme si la suite c'était nous. Ça devient alors notre histoire. Cette histoire nous dit que nous avons aussi le droit de chercher, de poser des questions et avec les catéchètes, avec tous ceux que nous croyons dans une église, c'est le moment, c'est le lieu où ces questions se posent. Ce qui nous rend vraiment heureux, ce n'est pas seulement la liberté de faire tout ce qu'on veut, mais c'est de savoir que nous sommes aimés sans condition et que dans certains endroits, on écoute nos questions. Elles sont écoutées par des gens qui se posent les mêmes et qui y répondront, peut-être maladroitement, peut-être provisoirement, mais avec nous. Cette parabole nous appelle à devenir, nous aussi, un peu comme ce père. Ce n'est pas facile. Un vrai défi. Dans un monde où on juge vite, et nous sommes comme ça, où on condamne facilement, ça nous arrive aussi, où on se ferme parfois à ceux qui nous ont déçus parce que trop, c'est trop, nous sommes invités à faire de la place pour la fête. Et ça ne peut pas se faire avec les yeux froncés ou avec des reproches qu'on tient tout prêt à celui qui se présente devant le portail. Il faut ouvrir la porte, le serrer fort et le laisser tranquille. C'est comme ça qu'on redonne dignité à ceux qui se sentent perdus, et c'est là la vocation gracieuse, gratuite de nos églises. C'est ça, au fond, la bonne nouvelle, l'évangile. Il y a de la place pour chacun de nous dans la maison du Père. Et aujourd'hui, il nous invite à entrer joyeusement dans cette maison. Il n'y a rien de mauvais qui nous y attende, à part peut-être nos propres défauts. Mais sur eux aussi, il y a possibilité de faire demi-tour. Amen.